à 9h, direction le jardin en compagnie d'Isabelle Donignad et Laetitia Agostini.
Alors, je sens qu'il y a des messages à faire passer aujourd'hui.
Donc le 6 avril. Non, c'était comme ça. Oui, le 6 avril, on organise comme chaque année nos journées portes ouvertes. Et avec des démonstrations de savoir-faire, les présentations des formations, que vous soyez élève, que vous soyez parent,
reconversion pro.
En reconversion pro. On est là, on vous accueille, on vous présente nos formations et nos savoir-faire.
Après, moi, je vous taquine parce que ça me fait rire que vous en fassiez la promo, mais je trouve ces moments hyper chouette.
Ouais.
Parce que un diplôme, c'est pas qu'un papier avec un descriptif, c'est un environnement, c'est un jardin d'apprentissage, ce sont des enseignants.
Des animaux d'apprentissage.
Des
aussi.
Animaux, des administratifs, c'est un contexte quoi.
Voilà.
Et c'est vrai que aller sur place, savoir à quelle sauce on va être mangé et découvrir tout cet environnement me semble être essentiel.
Et puis vous qui êtes déjà venu à Borgo, vous savez que chez nous c'est tout petit, puis on a
une
notre jardin.
Voilà. Attention, une famille en auto suffisance.
Voilà.
En autonomie alimentaire.
Ouais. Non, c'est... Voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Puis même si on veut se balader, on fait un petit marché des producteurs avec nos anciens élèves et stagiaires. C'est un moment de convivialité aussi. On vous comme son nom l'indique, on ouvre nos portes et donc tout le monde est le bienvenu.
On a autre chose à dire, Madame Agostini.
Venez avec vos enfants, votre famille, vous verrez nos agnelles.
Oui, je sais que vous en prenez soin, avec tout le staff et tous les jeunes aussi. Hein.
Oui, et puis moi, je tire mon chapeau à mes jeunes élèves qui, tous les midis, en autonomie, s'occupent des agnelles. Et hier, pour leur première, le matin, on les avait libérés et seuls, ils sont allés les rentrer quand la journée était finie, les remettre dans les bâtiments, fermés, sécurisés. Et je trouve que pour les élèves, c'est vraiment une situation... Ces situations d'autonomie, c'est vraiment formateur, valorisant. Et je suis très fière d'eux parce que depuis janvier qu'ils s'en occupent tout seuls, il y a eu zéro problème.
Bravo, on leur tire également un grand coup de chapeau. On va se concentrer sur l'émission ?
Sur le jardin.
C'est parti. 04 95 32 2222. Félicitations à Laetitia Agostini. Ça, c'est Patricia qui vous le dit pour son diplôme. Bravo. Alors, avant, elle nous disait bonjour. Et d'abord, merci pour votre émission et vos réponses à tous nos problèmes. J'ai des soucis avec deux citronniers et une orchidée cymbidium qui est en extérieur. Que dois-je faire ? Merci. Elle est à un endroit très exposé au vent et elle ne sait pas si ça peut aider pour l'orchidée. Donc l'orchidée, c'est cette photo-là. Mmh. Et les citronniers, j'ai fait une bêtise avec ma souris, je vais vous les montrer. Ils sont ici. Voilà Letty, pour une première question via Messenger, accompagnée de photos. Patricia, merci de nous avoir interpellés.
Alors, les orchidées, comme celle qu'elle a, la cymbidium, on peut parfaitement les mener en extérieur. Par contre, on n'oublie pas que ça reste des plantes tropicales. Donc, je ne sais pas où est notre auditrice. Mais pour peu qu'il y ait du vent, apparemment, un peu de sécheresse, etc., c'est pour ça qu'elle ne se plaît pas bien. Les feuilles ne sont pas moches, mais on voit qu'elles retombent. Et je pense que peut-être le substrat est un peu trop lourd pour elle.
L'orchidée, ça doit être léger. Hein.
Voilà. Même si ce n'est pas la même que la phalaenopsis, celle que l'on a en intérieur.
Il faut que ce soit un peu aéré.
Il faut quand même que ce soit aéré. Donc moi, je conseillerais d'essayer de la placer à un endroit à l'abri du vent et de peut-être la rempoter dans un terreau beaucoup plus léger, beaucoup moins compacte, pour essayer de lui redonner un petit peu un coup de souffle. Ensuite, concernant ces citronniers, je n'ai pas trouvé...
Qu'ils étaient dans un état lamentable.
Ils ne semblent pas lamentables, non. Ils n'ont pas l'air... les feuilles sont vertes. Après, faire un petit apport peut-être de...
Oui, parce qu'ils sont petits,
voilà,
peut-être.
Et le feuillage pourrait être plus vert, brillant, etc.
Oh, mon Dieu, c'est parce que vous n'avez pas vu le mien. J'ai honte.
Et c'est parce que vous êtes mal conseillée.
Oh, pas du tout. C'est peut-être parce que j'ai une main terrible. Et pas verte, en tout cas.
Mais
rouge,
si.
Bleu, mais pas verte.
Non, mais pour ces citronniers, on pourrait peut-être lui conseiller de faire un apport de fumier, compost. Là, c'est vraiment le moment.
C'est le moment, ouais.
Et ça permettra de les rebooster un petit peu, mais... Ils n'ont pas l'air en mauvais état. Après, ça reste du citronnier, de l'agrume dans une région venteuse.
Et ça, l'agrume et le vent, ça ne font pas bon ménage. Hein.
Non, voilà. Mais après, ils ne m'ont pas inquiété plus que ça. Les photos n'ont pas l'air déplorables.
Bon, si vous voulez préciser des choses sur votre altitude, l'endroit où vous vous trouvez et ce que vous trouvez de moche ou de moyen sur vos citronniers, Patricia, vous n'hésitez pas à préciser tout cela via Messenger.
De 9h à 10h sur RCFM, c'est le moment de jardiner.
Salut Christine, vous avez un avocatier qui a séché. Vous êtes à Casamotte, ça je crois.
Oui, c'est ça.
On vous écoute.
Oui, voilà. Alors, il reste plus que la souche. C'est une grosse souche, sèche, bien entendu. Et au fond, il y a des rejets maintenant, de 1 mètre à 1 mètre 20, vous voyez. Mmh. Est-ce que je dois tout arracher ou bien je peux conserver les rejets?
Alors, vous pouvez très bien sélectionner le rejet le plus droit, le mieux inséré. Mais,
il y en a 3 ou 4.
Ouais, mais il faut en sélectionner un. C'est la loi de la nature, il n'y en aura qu'un. Donc, vous choisissez le plus vigoureux, le plus droit, celui qui s'insère le mieux sur la vieille souche. Par contre, il faudrait savoir si votre avocatier était greffé ou non.
C'est un avocatier que c'était des pieds noirs qu'il avait planté il y a une cinquantaine d'années. Il était magnifique. Et il a commencé à dépérir, voyez-vous. Mmh. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont les chats qui ont gratté le truc, le tronc?
Non, non.
Les fourmis, peut-être.
Je pense qu'il a eu, différents problèmes et puis il a dépéri. Après, s'il avait 50 ans, c'était déjà beau comme âge.
Oui.
Mais concernant les jeunes, vous choisissez la plus belle repousse, celle qui est le mieux insérée sur le tronc.
D'accord.
Et par contre, il va falloir surveiller.
Elle est sur le tronc.
Au pied. Mais voilà, il va falloir vraiment surveiller et regarder parce que je pense que peut-être il était greffé et donc il va falloir envisager de les regreffer. Parce que si c'était des avocatiers greffés, vous risquez de ne pas avoir la même qualité d'avocat quand il va repartir, vu que c'est certainement le porte-greffe. N'hésitez pas à le faire greffer si vous connaissez quelqu'un, parce que j'ai bien peur que si c'est le porte-greffe, vous n'ayez pas du tout la même qualité.
D'accord, eh bien, je vous remercie.
Merci à vous, Christine.
Bonne journée,
au revoir.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Une question qui est arrivée par mail. J'espère que notre auditeur Simon est à l'écoute pour entendre la réponse de notre jardinière experte. Alors, la première concerne, si je ne dis pas de bêtises, Laetitia. Je recherche son message. Une longue tige qui a poussé dans son bougainvillier. Il se demande s'il doit la couper.
Alors, le bougainvillier, il y en a certains, pas plus tard qu'hier, on m'en parlait, qui ont explosé là, cette année. Ils ont fait des pousses. Quand ils s'installent bien, comme ça, après, ça dépend s'il est vieux, s'il est jeune.
Attendez, dans quel jardin ça existe, ça? Des arbres qui explosent?
Non. Cette année, j'en parlais, moi, j'en avais mis un qui a explosé. Et j'en parlais avec des voisins qui en ont un aussi qui a... Ils se sont plus malgré
la
sécheresse et tout.
Non, plus, hein.
Non, mais ça m'a surpris, hein, vraiment. Je me suis dit, là, c'est fort. C'est le fumier, en fait. C'est le fumier qui fait tout.
J'adore le fumier.
Voilà. Et donc, pour en conclure, s'il est jeune, s'il est vieux, son bougainvillier, si la branche le dérange, il peut la couper, il peut la conserver, il n'y a pas de souci. J'adore le fumier. Voilà, ça c'est dit.
Et puis la deuxième question, c'est un figuier qui devrait être taillé vu son ampleur et le nombre trop important des branches qui partent dans tous les sens. Mais il ne sait pas où et comment donner du sécateur et de la scie.
Eh ben, de toute manière, c'est trop tard.
Ouais, bon, ça c'est vrai. Voilà. Non, mais l'année prochaine.
L'année prochaine, en fait, il faut qu'il sélectionne les branches qui retombent le plus pour les supprimer. Il va essayer de lui redonner une forme un peu un gobelet ou quoi, mais tout dépend de la forme de son figuier. Mais souvent, les figuiers, ils ont quand même 4 ou 5 charpentières et puis un tronc au centre. Et on arrive à les rééquilibrer s'ils nous gênent vraiment.
C'est vrai qu'il est fourni. Hein.
Voilà, mais... Ah oui.
Oui.
J'avais pas vu.
Oui, c'est le second. C'est vrai qu'il part dans tous les sens, quoi.
Ah ouais, quand même. Oui, c'est la jungle. Eh ben, s'il a vraiment envie, il pourrait supprimer carrément le tronc qui fait une espèce de manivelle. Il n'y a pas d'autre nom. Et conserver celui qui est le plus droit et là, le restructurer en sélectionnant les charpentières. Quand c'est un vieux figuier comme ça, ça réagit quand même assez bien à la taille. Ça ne le perturbe pas.
La période ?
En hiver, plein hiver. Et par contre...
Quand on est au repos végétatif, par contre, voilà. C'est assez sensible, non, au niveau des tailles. Le figuier, on le cicatrise.
On cicatrise et surtout, on le fait vraiment quand c'est en plein repos végétatif. Parce que là, ils ont commencé à démarrer.
Ouais.
Et si on taille maintenant, il va pleurer. C'est une porte d'entrée pour les maladies. Donc, il le coupe et après, il sélectionne les branches. Mais c'est sûr qu'il y a du boulot, là. Hein, Bon courage. Non, après, il faut se méfier aussi parce que comme il va lui faire des coupes assez sévères, on va avoir beaucoup de repousses. Et là, il va falloir l'année d'après être vigilant pour réorganiser tout ça.
Voilà, mais l'idée, c'est toujours de faire un gobelet, c'est-à-dire des branches qui ne partent si possible pas vers le bas, qui ne vont pas ployer et casser ou qui ne partent pas dans l'intérieur. Là, et en même temps que vous puissiez ramasser vos fruits.
Voilà, mais là, il est gênant hein, parce qu'il a vraiment un grand tronc et puis après, la manivelle...
Ouais,
là,
la manivelle, elle est, sans être inquiétante, elle doit faire du poids quand même. Voilà. Ça, il faut la dégager, c'est sûr.
Moi, ouais. Si j'étais lui, je la dégagerais et je resterais sur l'axe vraiment vertical.
Ouais.
Et là, j'organise mes charpentières.
Voilà Simon, en espérant que vous ayez pu être à l'écoute.
Sinon,
en
podcast,
les reines de la bouillie bordelaise vous attendent de 9h à 10h sur RCFM.
Sinon, en effet, sur notre page Jardin d'RCFM sur Internet, vous retrouvez évidemment tous les podcasts. 04 95 32 22 22, un numéro qu'a composé Jeanne. Bienvenue Jeanne.
Bienvenue, bonjour.
Salut.
Bonjour.
Voilà, j'aimerais avoir un petit renseignement, s'il vous plaît. J'ai acheté un oranger il y a peu de temps. On l'a planté avec la terre qu'il fallait parce qu'on a vu le pépiniériste, il nous a dit de mettre de la terre spéciale agrumes. Il a bien poussé, il m'a sorti plein de petites branches avec plein de petites fleurs, enfin des fleurs, non, des bourgeons de fleurs, je pense. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'il est rempli à nouveau de fourmis.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, voilà. Donc, il se sèche. Il y a plein de feuilles qui tombent, qui sont jaunes. Je ne sais plus quoi faire,
alors,
je suis désespérée.
Voilà. Les fourmis, il faudrait voir si elles sont au pied. Si elles sont au pied, il ne faut pas hésiter. Ça va être contraignant, mais à faire des barricades.
Oui.
Avec de la terre de diatomée.
En fait, alors, de la terre de diatomée, je vais tout noter.
On l'achète en jardinerie, mais par contre, la terre de diatomée, elle a un aspect poudreux, comme du talc en fait. Et
oui.
Dès qu'elle prend l'humidité, elle a tendance à se compacter, donc elle ne fait plus le job contre les fourmis.
D'accord.
Donc il faut renouveler, mais ils vous la vendent en seau de 5 kilos hein, même, pour essayer de les chasser du pied. Ensuite, là, c'est vraiment la bonne saison. N'hésitez pas à gratter pour exposer les œufs des fourmis au froid, aux intempéries et autres, parce que les fourmis, en fait, on va les avoir à l'usure. On va exposer les œufs, elles vont vite se dépêcher, les re-rentrer et tout, mais comme on n'est pas encore à la saison où elles ont beaucoup de ressources, il faut les gratter tous les jours, quoi, quasiment, pour essayer de les faire fuir, leur dire, regardez, là, c'est vraiment pas un terrain où vous allez être tranquille. Allez-les vous installer ailleurs. Ensuite,
d'accord,
pour les empêcher de monter sur le tronc, il existe des systèmes, c'est des rolls, c'est comme du scotch que l'on entoure autour
du
tronc.
Voilà, mais c'est ce que j'ai mis déjà,
mais
du roll noir.
Ouais, mais après, moi, il y avait une personne âgée dans un village qui m'avait dit, regarde, sur ces bandes de gluantes, elles font des ponts, soit en se sacrifiant, soit en mettant de la terre. Et le mieux, c'est de protéger le tronc de notre arbre avec un chiffon et de remettre par-dessus un chiffon imbibé de graisse mécanique. Parce que comme ça, là, elles patinent. Elles n'ont pas moyen de fixer quelque chose pour faire un pont.
D'accord.
Ah, sinon, la fourmi est une stratège.
La fourmi,
hein,
c'est vraiment... Mais après, n'hésitez pas, même si vous avez mis du terreau agrumes, même si vous avez mis... Apportez-lui du fumier, de l'engrais, parce que il faut savoir qu'en pépinière, ils sont dopés un petit peu, nos arbres.
D'accord.
Et quand ils arrivent à la maison, ben, il y a beaucoup moins de ressources. Hein,
ils font un peu la gueule.
Voilà, c'est 17.
Et je peux faire la même chose pour le citronnier qui est à côté.
On peut faire ça pour tout.
D'accord. Mais alors, attendez, là pour le... Excusez-moi, le truc de...
La terre de diatomée
Non, pas la terre de diatomée, le chiffon, là.
Oui.
Il faut d'abord que je mette le chiffon.
On protège le tronc pour manière que la graisse ne soit pas en contact direct avec le tronc.
Mais avec les fourmis
et
qui
ensuite,
vont glisser dessus.
On imbibe un autre chiffon avec... quoi. Vous pouvez protéger même avec de la toile de jute ou autre. Vous voyez,
d'accord,
vous faites un bandage sur, ou une bande hein, même, voilà, sur votre tronc. Et par-dessus, vous mettez un chiffon que vous avez imprégné de graisse mécanique.
D'accord. Et par-dessus, je mets mon truc glu.
Non, la glu, vous la laissez tomber. Vous mettez que ça.
Ah, d'accord.
Et
le
en fait,
chiffon,
les...
plus... D'accord.
On protège le tronc et on met un chiffon de, imbibé de graisse mécanique et les fourmis, elles vont patiner, quoi.
D'accord, elles ne monteront plus. D'accord.
Mais il va falloir renouveler. Vous voyez, c'est que des petites astuces de longue haleine.
Oui.
J'ai pas de solution miracle.
C'est déjà ça.
Ah, surtout pour les fourmis, si on en avait. Merci à vous, Jeanne, de votre intérêt.
Beaucoup.
Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée à vous. Merci.
Au revoir.
Si vous souhaitez participer, il nous reste une petite demi-heure pour téléphoner au 04 95 32 22 22, nous envoyer un petit message par internet, soit Messenger, soit mail isabelle.doninia@radiofrance.com.
Bottes aux pieds et pêche à la main, on vous attend sur RCFM.
Au 04 95 32 2222, mais aussi par Messenger et mail. Jean-Pierre nous dit bonjour à toutes les deux. Voilà mon problème. Mon lentisque qui part en plusieurs branches a grillé partiellement une branche. À qui pourrais-je m'adresser pour un diagnostic? C'est vrai que cette branche, elle est folle, hein, au milieu d'un bel arbre.
Et c'est des problèmes qu'on rencontre là, de temps en temps.
On s'explique pas bien.
Ça.
Hein.
Et j'en ai discuté avec plusieurs collègues et on ne comprend pas trop. Donc, moi, la stratégie que j'adopterais, si c'est grillé, mort, fini, je la coupe, mais je la coupe vraiment à la base, cette branche.
C'est-à-dire qu'on commence par le haut, on regarde à l'intérieur ce qui se passe.
Mais j'enlève tout ce qui est vraiment un peu malade, même si c'est qu'un tout petit peu malade, je le supprime, en espérant que ça n'ait pas gagné, que ce ne soit pas véhiculé par la sève comme maladie et que ça ne gagne pas le reste. Mais là, je n'ai pas de réponse. Quoi.
Pas de réponse sur la cause, mais en tous les cas, effectivement,
et
il faut la supprimer.
C'est une solution que je propose. De toute manière, une branche morte, elle ne sert à rien. Voilà. Après, je vais encore poser la question dans la semaine, voir si je rencontre des gens qui peuvent m'apporter des réponses.
Et qu'est-ce qu'on fait de la branche morte?
On emmène à la déchetterie pour que ce soit détruit au plus vite. Voilà,
et que ça ne fasse pas des petits.
On se sort ça du milieu.
Ok. Marie-Josée.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Bonjour à vous deux, j'ai un brugnonnier qui fleurit. Est-ce qu'on peut encore le tailler ou faut-il attendre que les fleurs tombent? Merci d'avance et bonne journée cordialement, Marie-Jo.
Alors, on va attendre encore plus longtemps que les fleurs soient tombées. On va attendre l'été, le mois de juin à peu près, on va pratiquer de la taille en verre. Parce que sur tout ce qui est pêche, abricot ou autre, on peut tailler en hiver, mais on peut aussi faire de la taille en verre. Mais entre les deux, on ne touche pas pour éviter qu'il se développe de la gommose. Voilà, donc on attend.
C'est quoi la taille en verre?
La taille en verre consiste à éliminer les gourmands, les jeunes pousses qui auraient pu pousser.
Sur la vigne, non, qu'on fait ça ou pas?
On le fait sur tout.
Sur tout.
En fait, c'est ce que l'on appelle l'épamprage en vigne. C'est ce qu'on appelle aussi les bourgeonnages en agrumes. Et la taille en verre en fruits à noyaux, je dirais, c'est quand même un peu plus important parce que autant l'épamprage et les bourgeonnages, on enlève les jeunes pousses à la main, autant là, on peut même supprimer des branches ou restabiliser, restructurer notre arbre au sécateur.
Et ça, on le fait à l'été?
Ouais, au mois de juin, c'est pas mal.
Bon, surtout que les gourmands, quand on les voit pousser, on sait qu'ils bouffent de l'énergie, qu'ils vont rien donner.
Mais après, toutes ces jeunes pousses un peu vigoureuses, vous savez, au départ, on les décroche du tronc juste d'un petit coup de...
En les pinçant, presque.
En les pinçant, en les retournant avec les doigts. Et l'arbre cicatrise bien quand on le fait au bon moment.
Ok, c'est noté. On va retrouver la question de Stéphanie. Toujours via Messenger. Bonjour, je voudrais savoir... Pourquoi mon clémentinier, l'hiver, a des clémentines qui sont piquées et qui pourrissent?
La mouche. C'est la mouche des fruits. Cette année particulièrement, on a eu beaucoup d'attaques parce qu'on a eu du froid qui est arrivé très, très tardivement et des fruits qui étaient bien sucrés. Donc la mouche, normalement, elle est anéantie en... Tout du moins fortement ralenti.
Le froid
ralenti.
Lui fait du mal, mais bon.
Et cette année, on a eu le froid qui est arrivé trop tard, donc il faut bien penser
sur... Un petit peu
sur...
comme les moustiques, si je puis me permettre.
Voilà, exactement.
Qui ne disparaissent plus.
Non, ils y sont en permanence.
Allez, décembre, janvier, mais là, ça y est, on est au mois de mars.
Ça fait un moment. Hein.
C'est incroyable.
Ouais.
C'est... Donc, pour revenir à ces mouches, il faut multiplier les pièges.
Il faut mettre les pièges, mais les mettre suffisamment tôt. C'est pas... nous, on se dit... Non, là, les clémentines, elles ne sont pas encore mûres. Mais pour les mouches, il y a déjà suffisamment de sucre.
Pour les attirer et les
d'ailleurs,
piquer.
D'ailleurs, les mouches sont encore plus attirées par les oranges. Les oranges qui sont mûres plus tardivement que les clémentines, elles sont piquées avant. Donc, allez, on va dire entre le 15 et le 31 août, il faut avoir mis les pièges, quoi.
Et, est-ce qu'on les renouvelle du fait de la durée qu'on leur demande?
Tout dépend. Si ce sont des pièges à phéromones, on regarde, les capsules ont une durée de vie de 6 semaines. Donc oui, parce qu'en 6 semaines, si on met ça à la mi-août, ça fait au 1er octobre. Et au 1er octobre, on ne fait pas encore la récolte. Après, on a des pièges qui ont d'autres systèmes de fonctionnement qui durent plus longtemps. Ça dépend du type de piège que l'on emploie. Quand c'est la poudre à diluer dans de l'eau, on n'hésite pas à renouveler, maximum 3 semaines, quoi.
Ok, donc c'est ça la raison de vos fruits qui pourrissent, mais malheureusement, quand ils sont piqués,
c'est trop tard. C'est quand il y a les premiers fruits qui tombent au sol parce qu'ils ont été piqués, c'est trop tard.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Un petit message qui revient de Patricia qui nous a interpellé pour son orchidée et ses citronniers. Merci pour vos réponses, mais comme je débute en jardinage, nous dit-elle, quel type de fumier dois-je apporter à mes citronniers et pour l'orchidée, quel type de substrat ?
Alors, pour le fumier, on prend du vieux fumier qu'on trouve dans une bergerie par là. Si on n'est
pas... moins 6 mois, 1 an, hein, pas voilà. Du fumier frais.
Mais Patricia. Que ce soit cheval, brebis, chèvre, on s'en fiche. Si on n'a pas de bergerie à proximité, on achète du fumier en jardinerie. Et pour l'orchidée, on va choisir un mélange, un terreau où il y a beaucoup de tourbe dedans, quelque chose de très léger. On ne va pas choisir un terreau trop fin.
Compacté.
Le terreau pour semis, par exemple, ça ne va pas du tout parce qu'il est très fin, donc il va rapidement se compacter. On va choisir plus...
La tourbe qui est plus respirante va...
Voilà, mais attention, pas trop non plus parce que la tourbe, c'est acide. Là, l'autre jour, qu'est-ce que j'ai vu en jardinerie ? J'ai vu terre végétale, terreau végétal. Un truc comme ça. Et ceux-là, souvent, sont assez légers. C'est des fibres un petit peu grossières. Et donc, il y a une bonne circulation de l'eau et de l'air.
Si vous souhaitez participer, vous connaissez le chemin.
De 9h à 10h sur RCFM, c'est le moment de jardiner.
Paul, bonjour. J'ai récupéré un ficus d'1m60 de haut. Pas mal de branches, mais très dégarni. Depuis 6 mois, il pousse, mais ne s'étoffe pas. Très peu de feuilles vers l'intérieur. Est-il possible de le tailler ?
Alors, on peut le tailler, mais cependant, il faut savoir que les ficus, quand ils se sont dégarnis, c'est très, très, très long pour qu'ils se regarnissent.
Donc, il faut de la patience.
En fait,
mais il y a de l'espoir.
Voilà, oui, c'est pas perdu. Mais quand je dis très, très, très long, c'est l'affaire de 2, 3, 4 ans. Quoi.
Ah ouais.
Et souvent, ils se dégarnissent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas assez de lumière. Donc, il faut lui choisir vraiment une belle exposition, bien ensoleillée. Et je sais, alors moi, je n'ai jamais osé prendre ce risque, mais il y a des gens qui les mettent l'été dehors, quoi. Pas en plein soleil qui crame toute la matinée, mais qu'ils aient de la lumière vraiment. Et c'est vrai qu'on a des ficus sur des terrasses qui sont magnifiques parce qu'ils ont vraiment une bonne dose de lumière.
Bon, donc armez-vous de patience et choisissez une orientation propice à son
développement. Il faut vraiment qu'il ait de la lumière, voilà.
Les reines de la bouillie bordelaise vous attendent de 9h à 10h sur RCFM.
Et là, tout de suite, avec ce jingle, on retombe à notre stade de bouillie bordelaise. Non, mais sans déconner. Bref, Monique nous pose une question. Laetitia, j'ai bouturé il y a plusieurs mois ces pointes, ces draps. Elles ont l'air de prendre. À quel moment les mettre en pot ou en terre ? Dans quelles conditions ? Là, elles sont à l'ombre et Monique a peur de les assécher trop vite. Laeti, vous en pensez quoi ?
Oui, elles ont pris...
J'aime bien l'idée de la serre là, avec la bouteille par-dessus.
Ça marche
pas mal,
super
ça.
Bien. Moi, je les laisserai 1 an dans le pot. Hein.
Ah bon ?
Oui, qu'elles fassent vraiment bien des racines.
Après, donc, elle a raison de craindre de les déplacer trop vite.
Ouais. On les laisse comme ça.
Est-ce qu'on les change de pot éventuellement ?
Non, elles n'ont quasiment pas de racines. Les pots sont suffisamment grands. Les pots doivent être troués au fond. Et avant, on avait tendance à dire qu'on change quand on voit les racines qui dépassent au fond. Quoi. Donc là, elles ont largement le volume.
Il faut les laisser
Par
s'installer.
Contre, attention, c'est le cédrat, normalement, on le greffe. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, quoi, en fait, après, en tant qu'arbre.
Oui, bah ça, on le dit toujours. On peut prélever un noyau, une bouture,
un pépin. La bouture, c'est une multiplication à l'identique, contrairement au semis qui est de la multiplication plus aléatoire. Mais multiplier les agrumes par bouturage, après, on les greffe forcément pour qu'ils aient plus de vigueur ou autre.
Donc, il faut faire appel peut-être à un spécialiste.
En frante de pied, je ne sais pas. Je vais demander, je vais poser la question.
Ok. On pose la question, Monique, et on vous rencarde.
Mais en tout cas, qu'elle les garde comme ça, c'est bon. Hein.
En attendant, Stéphanie et Paul vous ont remercié, que ce soit Paul pour son ficus ou Stéphanie pour son clémentinier qui va désormais mettre des pièges au bon moment. Elsa nous dit bonjour, merci pour votre émission et votre bonne humeur à toutes les deux. Surtout moi, Elsa, si
oui,
je puis
voilà.
Me permettre. C'est un plaisir de vous écouter. Je n'ai pas du tout la main verte. Bienvenue au club. Mais je rêve d'un potager. Mon cousin a la gentillesse de me prêter un petit jardin à l'abandon depuis des années. Les herbes sont hautes, mais chaque année, il fait quelques tomates et raisins tout seul. Il y a aussi un citronnier très prolifique. Le jardin est peu ensoleillé. Au milieu de la journée, à environ 400 mètres d'altitude, et il est situé dans le Nébio. Comment puis-je démarrer une première fois ou trouver des informations sur comment préparer simplement un terrain abandonné mais qui semble fertile pour une totale débutante, précise Elsa. Quels fruits ou légumes puis-je envisager qui soient peu gourmands en eau, pas trop difficiles à faire survivre, la priorité étant de préserver le citronnier. À quelle distance faut-il se mettre de lui pour ne pas l'embêter ?
Alors, beaucoup de questions. Premièrement, il faut qu'elle se rassure parce que je pense que la première année, on a toujours la chance du débutant.
Ah !
Alors, cette chance, elle n'est pas complètement aléatoire. C'est que là, pour l'instant, il n'y avait rien sur le terrain. Donc, on n'a pas de foyer de maladie, rien. Le sol doit être à peu près équilibré. Donc, il va falloir qu'elle se dépêche, là, très vite.
C'est maintenant qu'on commence à y penser.
De tout nettoyer.
OK.
Travailler le sol.
Donc, travailler le sol, tout nettoyer, ça veut dire quoi ? En langage
on arrache,
de...
On arrache toutes les herbes et on bine bien, bien, quoi.
Ouais.
Si on a un petit motoculteur, c'est mieux. On passe un petit coup de motoculteur où on travaille, mais pas juste sur 5 cm.
On retourne profondément la terre.
Pas profondément, mais on travaille sur 15-20 cm, quoi, quand même, pour casser un petit peu la structure. Dans le Nébio, elle doit trouver du fumier. Hein, je ne sais pas où elle est exactement, mais il y en a quelques-uns, des bergers, d'ailleurs, je les salue. Et ensuite, elle met son fumier. Et au mois de... Alors, le Nébio, quand même, 400 mètres, on va attendre les Saintes de Glace. Vous savez, le 12 Saint-Pancras. Après là, elle peut mettre... tomates, courgettes, aubergines.
La ratatouille, quoi.
Voilà, la ratatouille. Elle pourra faire à la limite un traitement à la bouillie bordelaise. Mais je pense que la première année, on a toujours beaucoup de chance. On n'a pas de maladie. C'est les années suivantes que ça se corse.
Okay.
Et on va essayer de rester, allez, on va dire à...
Combien du citronnier ?
2-3 mètres de part et d'autre du citronnier.
Ok.
Et le citronnier, on le taille un peu maintenant, on le nettoie, mais s'il a résisté depuis, il n'y a pas grand risque.
Donc on retourne la terre, première étape,
voilà.
On désherbe, on retourne la terre et on fait des apports.
On fait un apport de fumier, manière de donner un petit peu quelque chose, mais généralement, les premières fois sur les terrains, ça se passe bien.
Et après, qu'est-ce qu'on plante ? Des graines ? Des plants ?
Non, moi j'achèterai des plants.
Des plants, hein, directement.
C'est vachement plus simple. Et puis les graines, ce que je trouve frustrant, c'est qu'on achète un sachet de graines de tomates, par exemple. On a, je ne sais pas, peut-être X, on a 2 ou 3 grammes, mais ça fait je ne sais plus combien de graines. Et on fait tous nos semis, puis après on a 15 pieds de tomates, mais dans le jardin, on n'a pas la place de les mettre. Et après, on ne les consomme pas forcément. Non, là, elle va en jardinerie, elle achète 2-3 pieds de tomates, quelques pieds de courgettes. À la limite, elle peut faire ses semis de courgettes, on les réussit assez bien.
Comme on les espace comment par rapport à l'arrosage ?
On va les planter, les tomates en ligne. Mm-hmm. Sur la même ligne, on peut mettre nos 3 pieds de tomates, notre pied de poivron et un pied ou deux d'aubergine, par exemple, et on fait une rigole au pied des plants.
Mmh.
Et comme ça, on arrose un bout jusqu'à l'autre et on bine et ça permet de faire un entretien facile. Pour les courgettes, par exemple, on va les planter dans des cuvettes et on va les espacer de 1,50 m à peu près de toutes parts. Quoi. La courgette, attention, ça prend énormément de place.
Mais c'est-à-dire qu'elle va gagner.
Même celles qui ne sont pas coureuses, elles font des trucs. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut minimum 1,50 m en tous sens entre les pieds de courgettes.
Bon, et au niveau de l'orientation, s'il y a un citronnier, on se dit...
Le jardin, il est orienté, mais s'il n'est pas en plein soleil la journée,
non,
c'est pas
milieu
gênant.
De journée.
Voilà, s'il a le soleil l'après-midi et autres, les fruits et les plantes s'en porteront que mieux.
Ok, bah écoutez, merci pour les infos. J'espère qu'on a répondu.
Si elle se dépêche de faire vite de préparer, elle peut même se mettre quelques fraisiers.
Elsa, voilà ce qu'il faut faire maintenant. Ça tombe bien, le week-end est pas mal et la terre n'a pas encore trop séché.
Et puis, il est prévu la pluie, là, cette semaine.
Ouais. Parce que sinon, attaquer la terre bien sèche,
non, ça, c'est impossible.
Ça, c'est bouillant, par contre.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Jean-Michel, merci d'avoir patienté. Vous êtes à Haut-Cana.
Oui, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
J'ai planté des lauriers l'année dernière.
Oui.
Les lauriers lesquels?
Jaune, rose.
Des lauriers fleurs, donc.
Ouais. Des lauriers fleurs.
Des lauriers roses, ouais.
C'est ça. Et ils ont un peu grandi.
Ouais. Tant mieux.
Ils ont égrené.
Oui.
Et je ne sais pas si je les rabats ou si je les laisse faire pour cette année.
Alors, pour cette année, moi, je les laisserai faire. Parce que pour l'instant, ils font quoi? Ils font 1 mètre, 1 mètre 20, non?
Ouais, non, pas du tout. Ils font 2, 4, 6, ils font 60 centimètres.
Ah ouais, donc, on ne va pas les rabattre.
Hein, 60, ouais. 80, allez, un voilà. Mètre, ils ne les font pas.
Moi, 1 mètre, 1 mètre 20, je ne les rabattais pas. Alors, 60, 70, encore moins. Non, on les laisse. Par contre, la binée, apporter du fumier, ça va les aider à vraiment s'installer parce que vous les avez plantés il y a un an. Au printemps dernier.
Au printemps dernier, oui, c'est ça.
Voilà, ben, apportez-leur du fumier parce que l'an dernier, on les plante au printemps, ils subissent la sécheresse estivale, etc. Là, leur apporter maintenant du fumier, hop, ils sont en plein démarrage et ça va vraiment leur mettre beaucoup de boost.
C'est ce que j'ai fait. J'ai tout autour, j'ai nettoyé, j'ai mis du fumier.
Parfait. Ben, vous avez fait exactement ce qu'il faut faire. Et tant qu'ils ne font pas, allez, on va dire 1m50, on ne les rabat pas, hein, on les laisse regarnir un petit peu.
C'est du bon sens tout ça, mais des fois on a besoin d'avoir...
Voilà.
Une petite mais confirmation après, pour être les plus
rabattre, sans les rabattre, n'hésitez pas parce que vous savez, sur les lauriers roses, il y a des rouges et il y a des blancs, il y a des roses et il y a des saumons aussi, jaunes, saumons.
Je pense. Ouais.
Et attention parce que les couleurs... entre guillemets naturel, c'est plus rouge, rose, et donc souvent ils sont plus vigoureux, donc il ne faut pas hésiter une fois par an quand même à couper un petit peu les têtes de tout le monde, mais là c'est pas le cas, pour que les rouges n'envahissent pas, n'empêchent pas les jaunes qui sont plus fragiles.
D'accord, mais ça c'est quelque chose qu'on peut rabattre même un peu fort, quoi, il n'y a pas de souci.
Ah, le laurier, quand ils sont bien implantés, vous savez, quand ils font 2 mètres et quelques de haut, on peut facilement les rabattre, pas tous les ans, mais à 80 cm, manière qu'ils se regarnissent de la base, quoi.
D'accord.
Non, c'est une fois qu'ils sont bien implantés, c'est du tout terrain, hein, c'est du rustique.
C'est rustique,
c'est ce qu'il faut,
oui.
C'est ce qu'il faut.
C'est rustique.
Voilà.
Et les chèvres ne le mangent pas, en plus.
Non, mais c'est vraiment bien adapté. Le laurier rose est une plante qui est vraiment très, très bien adaptée à nos climats. Et pour moi, c'est idéal, quoi.
Écoutez, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions.
Je vous souhaite une bonne journée.
À bientôt.
Allez, au revoir.
Cathy, pour une dernière question via Messenger. Mon clémentinier a l'air fatigué. Les feuilles sont noires. Oh là là, je sais ce qu'elle a eu. Que puis-je faire pour l'aider? Merci, bonne journée.
Alors, vos feuilles sont noires. C'est pas ça qui me choque le plus, c'est qu'elles sont un peu jaunes.
Ouais.
Donc, on apporte du fumier, du compost,
le noir,
de l'engrais.
C'est juste un petit parasite.
Eh bien, en fait, elles ont eu... on le voit bien, vous voyez, il y a du rouge,
du noir et du blanc.
Et en fait, cette année, dans l'ensemble des vergers, on a eu beaucoup d'aleurode. Ouais. Et l'aleurode a vraiment... Il n'y a pas eu un hiver assez dur et elle colle encore. Donc, on fait un traitement aux huiles, mais on attend que là, on doit être au stade bouton blanc, donc on évite. Et savon, huile, voilà.
Tout pour faire glisser les parasites.
Voilà, mais c'est l'aleurode.
Ouais,
c'est pas grave.
Et la couleur des feuilles pour l'intensifier.
Là, il faut faire vraiment. Il a faim. Donc, il faut vraiment faire soit un apport de fumier, soit des engrais, mais parce qu'il est vert jaunâtre, peu. Il est verdâtre, voilà.
Il est verdâtre. Bien, en espérant, Cathy, que vous ayez un berger pas très loin de chez vous.
Mais
merci pour vos questions.
Alors, Moi, j'aime bien le fumier parce que ça améliore le sol, ça améliore la circulation de l'eau et puis en plus, ça fournit des minéraux. Mais il ne faut pas hésiter à mettre même de l'engrais, un engrais complet qu'on achète en jardinerie. Pas la peine de se casser la tête, on regarde les trois chiffres derrière. N, l'azote pour le feuillage, P, le phosphore pour les racines et K pour le fruit. Et il faut que...
Ce soit équilibré ?
À peu près équilibré. L'idéal, ce serait que le dernier chiffre soit le plus important, le premier... En deuxième position d'importance, c'est le phosphore
au milieu.
Au milieu, voilà.
Et du coup, comment on s'y prend ? On fait une couronne autour de l'arbre ?
Oui, on nettoie bien à l'aplomb du feuillage. On met notre engrais. Souvent, ce sont des petits grains. Et on bine légèrement. Et après, on met un coup d'arrosage. Et ça marche très, très bien. C'est des engrais minéraux. Ça fait vraiment un coup de fouet, quoi, contrairement à d'autres.
Quelle quantité ?
Alors,
c'est
ça,
marqué,
tout dépend.
Ça
alors, il faut savoir que les engrais sont dosés. Et par exemple, j'ai, on va dire quoi, du 4 de 6. Mmh, mmh. On va trouver 4, c'est l'azote, c'est 4%, 2% et 6%. Mais parfois, je peux avoir du 3 fois 17. Donc, si j'ai du 4 de 6, pour avoir le même effet que le 3 fois 17, je vais devoir en mettre
3 fois plus.
4 fois plus. Quoi. Mmh. Donc, il faut vraiment regarder. Je ne peux pas donner une dose parce que suivant la concentration de l'engrais, les doses ne sont pas les mêmes.
Et ça va dépendre aussi de la taille de l'arbre ?
Alors, c'est une dose au mètre carré.
Au mètre
donc,
carré.
Nous, comme on a défini l'aplomb
du feuillage.
L'aplomb du feuillage, on voit si ça fait 1 mètre carré ou 20 mètres carrés.
Et oui, parce que l'aplomb du feuillage détermine un petit peu ce qui se passe en dessous,
voilà.
Au niveau des racines.
Et il faut vraiment le mettre à l'aplomb
extérieur.
Il vaut mieux être sur l'extérieur que près du tronc parce que ce sont les jeunes racines qui absorbent le mieux les minéraux.
Et qu'elles sont les plus éloignées.
Et donc, c'est les plus éloignées.
Ça marche, madame. À samedi.
À samedi, merci beaucoup.
Et encore bravo.
Merci.